Après les municipales, place aux grands entretiens. Les maires au micro sur Tendance Ouest.
Et bonjour à tous, un invité du mercredi un peu particulier cette semaine, un peu plus de 2 mois après les élections municipales de mars dernier, focus sur l'un des élus de ces élections, comment il voit sa fonction de maire, quels sont ses projets pour sa commune, et nous recevons un maire qui n'en est pas à son premier mandat, Jérôme Dubaud, le maire de Montivilliers, bonjour.
Bonjour Monsieur Antoine.
Alors Montivilliers, c'est la deuxième ville la plus importante de la communauté urbaine du Havre. Le Havre, Seine Métropole, c'est environ 16 000 habitants, c'est ça?
15 684 habitants, exactement.
Exactement, donc environ 16 000, c'est ça. Et vous avez été réélu dès le premier tour, le 15 mars dernier, avec plus de 73% des voix devant Gilles Le Breton, RN et Benoît Naous. Vous êtes en fait donc maire de Montivilliers depuis 2020, c'est votre deuxième mandat. Vous aviez battu à l'époque Daniel Fidelin, ancien député de droite, qui avait fait un mandat à la tête de votre commune. Et à préciser que vous êtes aussi conseiller départemental, vice-président du Havre Seine Métropole en charge de la santé, et vous êtes membre du Parti Socialiste, si c'est toujours le cas.
C'est exact.
C'est aussi le cas. Vous avez 50 ans et vous n'avez pas toujours été un élu. C'est votre donc c'est depuis 2020 que vous êtes élu maire. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir devenir maire d'une commune, maire de Montivilliers?
Je pense que j'ai toujours été attaché à l'intérêt général et puis peut-être les origines, c'est sans doute lors de mes études d'histoire à l'université de Caen. J'étais aussi représentant du personnel pour les maîtres d'internat, vous savez les pions, on parlait des pions à l'époque, j'ai été pion dans un lycée, je me suis engagé au niveau syndical et puis ce qui a été sans doute le déclencheur, c'est la date du 21 avril 2002. C'est un souvenir difficile puisque c'était la première fois que l'extrême droite accédait au second tour de l'élection présidentielle et je me suis dit je ne peux pas rester comme cela, je pense comme des millions de Français, j'étais extrêmement triste et j'ai décidé de m'engager. Et évidemment, à l'époque, c'était au Parti Socialiste, j'y suis toujours. Ça a été la raison de mon engagement et je suis arrivé à Montivilliers il y a 25 ans. J'ai commencé à m'intéresser, je ne connaissais personne, mais vraiment personne à Montivilliers, puisque j'ai été muté ici. J'étais éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Je suis fonctionnaire du ministère de la Justice et j'ai réussi un concours. Et donc le poste au Havre, eh bien, j'y étais affecté et j'ai trouvé un logement à Montivilliers, je ne connaissais personne. J'ai trouvé cette commune extrêmement séduisante, très accueillante. Et aujourd'hui, j'en suis le maire et je pense pouvoir dire que je connais
bien Montivilliers.
Bien ma commune et les Montivillonnes et les Montivillons.
Donc, votre métier d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est quoi?
Alors, j'étais fonctionnaire du ministère de la Justice, donc éducateur à la PJJ. Je travaillais auprès du tribunal pour enfants, auprès des juges des enfants et des substituts des mineurs. Je me suis occupé pendant une quinzaine d'années de mineurs ayant commis des infractions, des délits, voire des crimes, donc des mineurs dits délinquants, donc je travaillais pour la justice des mineurs, et puis aussi un aspect de protection de l'enfance sur lequel j'ai été en première ligne, et puis j'ai été chef de service éducatif, c'est-à-dire j'ai encadré une équipe d'éducateurs, de psychologues et d'assistantes sociales, et tout ça en lien avec les magistrats de la jeunesse du Havre et du parquet du Havre.
Ce qui devait être assez passionnant aussi.
C'était très prenant. Très 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 prenant et passionnant, et évidemment un métier quand on travaille dans le social, c'est éreintant, et évidemment je connais bien notamment le Havre, et j'étais essentiellement sur les quartiers de Cocrioville, qui était un secteur que je connais bien, et j'ai aussi exercé le suivi des jeunes des familles de Gravenchon, Bolbec et Lillebonne, donc un secteur assez dense puisque une petite administration, c'est la plus petite administration de France, la PJJ est une administration du ministère de la Justice avec quelques milliers de fonctionnaires.
Quand vous êtes devenu maire en 2020, vous étiez déjà en fait conseiller municipal, vous aviez déjà eu cette envie de vous impliquer dans la vie locale.
En fait, je suis conseiller municipal depuis 2008. Il se trouve que je me suis engagé pour la présidentielle de 2007. Et puis à l'époque, le maire de l'époque m'avait repéré. Et donc je suis venu filer un petit coup de main dans un contexte de 2008 d'une gauche divisée à Montivilliers. Donc j'avoue que je ne comprenais pas très bien toutes ces divisions. Ça m'a paru toujours très compliqué. Moi, je suis plutôt un homme qui essaie de rassembler. Aujourd'hui, c'est le cas depuis 2020. La gauche est rassemblée à Montivilliers. J'en suis très heureux. Et puis je me suis impliqué. En 2008, je me suis retrouvé sur une liste. Et puis depuis, j'ai pris un peu mon envol et je me suis retrouvé candidat en 2014. En 2020, j'ai été élu maire et réélu en 2026, il y a 2 mois de cela.
C'était une vraie volonté d'être maire en 2020, 2014, 2020
Oui.
Pourquoi vous vouliez vous engager à ce point-là?
En fait, je me suis rendu compte que l'échelle locale, elle est passionnante parce qu'on peut prendre des décisions, décider de nourrir des projets, d'amorcer des idées, mettre en œuvre. Et en fait, l'échelon local est vraiment le plus... c'est un échelon de proximité, c'est la manière dont on peut mettre en œuvre des politiques. Quand je suis arrivé en 2008, je me suis dit, c'est une ville accueillante. C'est une ville où on sent qu'il y a un bien vivre à Montivier, il y a ce lien social. Il y a énormément de moyens qui sont mis dans les écoles, dans le sport, dans la vie associative, dans la relation à l'autre. Et en fait, ça correspond à mes valeurs. Et donc, je me suis dit, je peux aller plus loin peut-être sur ces projets. Et évidemment, si je me suis présenté, c'est avec l'envie de pouvoir piloter une équipe aussi, parce que le maire n'est pas seul, il a avec lui une équipe, et il travaille en lien avec des services. J'ai la chance d'être, entre guillemets, le patron des fonctionnaires de la ville de Montivier.
340 agents, c'est ça à peu près?
Oui, on a à peu près 340 agents, effectivement. C'est un beau volume, donc ça prend beaucoup de temps, puisqu'il s'agit de ressources humaines. C'est passionnant, avec des services dédiés, et avec une vraie mission de service public, avec un service rendu à la population. Donc ça, c'est passionnant de pouvoir mettre en œuvre à la fois un programme politique, mais évidemment, il faut pour cela des services mobilisés, pleinement mobilisés, pour mettre en œuvre le programme pour lequel les électrices et les électeurs m'ont fait confiance et m'ont refait confiance en 2026.
Et parce qu'en 2020, quand vous devenez maire, là, ça devient un boulot à plein temps, en fait. Pour une commune de 16 000 habitants, il n'y a pas d'autre choix que d'être maire tout le temps.
En tous les cas, moi, j'ai fait le choix d'être en détachement, position de détachement administratif, ce qui fait que je suis exclusivement et toutes mes semaines au dimanche sont consacrées à la gestion de la vie municipale. Je suis en mairie vers 8h15 à peu près. J'en sors de la mairie vers des heures.
Est-ce qu'on a plus de vie privée?
Alors, la vie privée en prend un coup, il faut le dire. La vie privée, elle est nécessairement entachée, évidemment, puisque l'engagement, il est sur une semaine du lundi au vendredi. Mais une ville comme Montivier, vous avez 33 associations sportives, vous avez plus généralement 160 associations. En fait, il se passe toujours quelque chose à Montivier. Et donc, la moindre des choses, bien, c'est d'être au contact des habitants, c'est d'être remercier les bénévoles des associations. Il y a toujours des compétitions sportives, donc il faut évidemment,
donc les week-ends,
avec mes adjoints, être là pour la remise de récompenses. Nous avons des compétitions, évidemment, départementales, régionales, voire nationales, qui se déroulent dans notre complexe sportif. Nous avons des événements réguliers. Ce week-end, il y a la Nuit du Handicap, qui est un événement national et qui se passera à Montivier, donc à partir de 15h au Centre Social Jean Moulin. Donc évidemment, j'y serai présent. Et puis les week-ends, c'est aussi le samedi consacré à marier. Nous avons des mariages,
oui,
et donc c'est des moments plutôt heureux, plutôt agréables. C'est peut-être dans la fonction de maire un moment très heureux que d'unir deux individus qui s'aiment, et au nom de la loi, puisque évidemment le maire, saint de son écharpe tricolore, agit au nom de la loi.
Est-ce que c'est une pression aussi être maire? On parle beaucoup actuellement des violences que peuvent subir les maires. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez vous aussi?
Alors la pression, elle est là indubitablement. Tous les jours, vous avez de la pression parce qu'il faut aller toujours vite. Vous avez toujours des dossiers qui sont plus urgents les uns que les autres. Il faut être évidemment connecté avec la réalité des violences intrafamiliales, la réalité des faits divers. Et puis ne pas louper tel appel à projet. Donc évidemment, il faut avoir une vigilance de tous les instants sur tous les sujets. Donc le maire est forcément en première ligne. Donc, je le dis, il y a forcément une forme de pression. Pour autant, je peux toucher ce bois qui compose votre table. Je n'ai jamais fait l'objet de quelque agression que ce soit. Je l'entends par rapport à des collègues maires et j'en suis vraiment meurtri. J'ai cette chance. Évidemment, on est en vigilance parce que les maires étant exposés, c'est vraiment vers le maire que l'on vient se tourner. Dans une ville comme de 16 000 habitants, la
porte de la mairie... On se tourne quand même, oui, même 16 000, on se tourne quand même vers le maire.
Alors à
Montivier,
quand il y a
16 000 habitants.
Ouais. C'est 16 000 habitants, mais il y a un esprit village et on veut voir le maire. Et donc, il se trouve que j'ai fait le choix dans le premier mandat et je continue cette méthode de la proximité. Je trouve que ce qui est important dans ce mandat d'élu municipal, que l'on soit maire et j'engage mes adjoints et mon équipe municipale à être dans cette proximité au plus près des habitants, c'est-à-dire d'accueillir la parole, d'accueillir peut-être des doléances, de la souffrance aussi. Évidemment, c'est pas toujours le maire qui est en capacité de pouvoir...
Vous pouvez résoudre. Pas tout régler.
Il n'est pas du pouvoir du maire de tout régler. Par contre, c'est une porte d'entrée, eh bien, charge pour moi et mes services de pouvoir rediriger peut-être vers les bons interlocuteurs, en tout cas d'être ce maillon entre peut-être les administrations de l'État, le département, la région, d'autres services. Mais en tout cas, c'est une porte d'entrée puisque je pense que dans notre pays, il y a un personnage politique qui est vraiment repéré, c'est le maire. C'est une confiance et j'essaie de me montrer à la hauteur de la confiance qui m'a été témoignée, notamment au regard des dernières élections. Toujours d'accord. Alors évidemment, on n'est pas toujours d'accord.
C'était une surprise hein, quand même les dernières élections. Dès le premier tour, 73%, c'est une belle marque de confiance de la part des habitants.
C'est effectivement une marque de confiance et je dois me montrer à la hauteur de cette confiance. Je dois dire avoir été le premier surpris puisqu'il y avait trois listes. Je le dis sincèrement, je pensais qu'il y aurait deux tours. Donc nous avons gagné une semaine, nous avons économisé une semaine vis-à-vis d'un dimanche où nous sommes mobilisés parce que ça mobilise beaucoup de monde. Et plus, c'était une économie parce qu'un seul tour, c'est une économie. Nous n'avons pas eu à payer tous les assesseurs et puis tous nos agents. Et puis, c'est évidemment une marque de confiance. Qui m'oblige aujourd'hui à être à la hauteur. C'est aussi, je pense, le résultat d'un bilan, puisque j'avais eu l'occasion de présenter un bilan en indiquant que 97% du bilan que j'avais écrit, que nous avions écrit collectivement en 2020, avait été réalisé. Je crois beaucoup à cette recette de dire on fait ce que l'on dit, on dit ce que l'on fait. Et peut-être ça surprend certains, mais en tout cas, je suis de ceux, si j'écris un programme, c'est pour l'appliquer. Donc aujourd'hui, nous avons écrit un nouveau programme qui est entièrement finançable, parce qu'évidemment, la difficulté, c'est qu'on peut avoir plein de projets.
Oui, parce que vous n'avez pas voulu augmenter les infos sur la part communale.
Tout à fait. Et avec un engagement pris en 2020, que j'ai réécrit en 2026, de ne pas augmenter le foncier communal. C'est la seule part que peut évidemment, sur laquelle peut agir un conseil municipal. Et nous ne touchons pas au foncier
communal. Et on arrive quand même à monter des projets, on arrive quand même à rendre une ville dynamique.
Eh bien, nous y arrivons parce que, eh bien, nous voulons continuer d'offrir des services à la population, du service public. Ça veut dire qu'il faut se réinventer, imaginer, faire un peu différemment, tout en ne réduisant pas, évidemment, ce service. Mais nous avons, fait des économies. Eh bien, nous demandons un peu plus d'intelligence collective, d'être en veille. C'est vraiment un travail aujourd'hui pour les maires, c'est d'aller chercher des subventions, c'est d'aller répondre à des appels à projets, c'est d'essayer d'imaginer autrement. Une ville, c'est une ville dynamique et on souhaite qu'elle perdure. Je pense qu'on a plutôt réussi. C'est la raison pour laquelle je pense que les électrices et les électeurs nous ont reconduit dans nos fonctions. C'est peut-être les vieilles recettes, mais moi j'y tiens de se dire que on a une parole et on la tient.
On va avoir l'occasion d'y revenir. On a jusqu'à 13h pour pouvoir parler de tout cela. Est-ce que vous êtes aussi conseiller auprès du département, vice-président aussi. Est-ce que vous avez d'autres ambitions? Est-ce que vous voudriez essayer d'autres fonctions?
Alors, nous sommes sur Tendance Ouest et j'annonce aujourd'hui sur Tendance Ouest, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle.
L'un des rares peut-être, c'est ça.
Alors j'ai entendu effectivement des maires ici ou là, en tout cas je peux l'annoncer, je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. Et j'ai toujours dit que le mandat local m'intéressait puisque c'est vraiment...
C'est ce qui vous passionne.
C'est ce qui me passionne et c'est une façon aussi d'agir très concrètement dans le quotidien des habitants de ma commune, d'être au plus près d'eux. Et je n'ai pas d'autres ambitions.
Député,
absolument
non, pas
j'ai été approché pour être député, je ne suis pas du tout intéressé, je le dis et je le redis ici. J'ai un mandat et j'ai bien l'intention d'exercer ce mandat de maire.
Et de reprendre ensuite votre travail, vous le concevez comme ça ou...
Alors, si je n'avais pas été réélu en 2026, j'aurais pu reprendre mon travail de chef de service éducatif, puisque j'étais en détachement, position de détachement, j'aurais pu reprendre, alors je ne sais pas où, parce que mon poste au Havre, évidemment, a été affecté, donc j'aurais été envoyé je ne sais où, mais peut-être aurais-je eu d'autres envies, peut-être, puisque pendant 6 ans, je pense avoir accompli un certain nombre de choses et puis accumulé des compétences. Mais vous voyez, rien que cela, j'ai même pas eu le temps de travailler, refaire un CV, essayer de travailler, parce que c'est tellement chronophage. Je suis en mairie du lundi au vendredi, samedi, dimanche, sur le terrain.
Oui, tout le temps.
Et ça prend du temps, mais c'est passionnant.
Eh bien, merci donc déjà d'avoir répondu à notre invitation. On va poursuivre, on va marquer une petite pause de publicité, puis on va poursuivre notre entretien pour découvrir ce qui a été fait à Montivilliers et puis ce qui va être fait sur le prochain mandat.
Après les municipales, place aux grands entretiens. Les maires au micro. C'est jusqu'à 13h sur Tendance Ouest.
Et retour pour ce long entretien avec Jérôme Dubault, le maire de Montivilliers, réélu en mars dernier. C'est donc votre deuxième mandat, avec une méthode peut-être, la proximité, le dialogue, la démocratie participative, c'est ça votre touche ?
On fait le choix d'être dans cette proximité avec les habitants, mais surtout de se dire il y a une vraie force chez les habitants, c'est de les impliquer. Donc j'ai un de mes élus qui est en charge de l'implication citoyenne. La démocratie participative, la démocratie locale, c'est comment prendre la parole des habitants, comment se servir de toutes ces forces pour pouvoir agir ensemble, mener des projets. Et nous avons fait le choix de tout passer au filtre de la démocratie participative.
Notamment... Parce que l'élection de maire, c'est déjà une élection.
C'est
donc on vous choisit.
Effectivement, on choisit et c'est le scrutin, donc c'est le scrutin dans le suffrage universel. Et puis ensuite, il y a toujours ce débat démocratie représentative, démocratie participative. Bien nous, évidemment, le maire, je représente l'ensemble des habitants. Aujourd'hui, je suis maire pour l'ensemble des habitants. Mais on a fait le choix aussi d'impliquer les habitants qui disaient leur mot à dire. Par exemple, nous avons lancé en ce moment notre budget participatif, c'est le deuxième. La dernière, nous sommes très heureux d'avoir proposé une somme de 25 000 euros pour que des habitants proposent des projets et ce sont les mêmes habitants qui viennent voter. Dans deux semaines, nous inaugurons un circuit mobile ludique qui a été choisi, qui a été proposé par une maman de famille et qui a été validé par plus de 500 votes. Eh bien, c'est
financé par ce budget.
Financé sur ce budget.
Donc,
avec
ça, c'est
la
quoi,
volonté
ce projet
d'apprendre à circuler à vélo, d'apprendre à, pour les enfants et peut-être des adultes. Donc ça, c'est quelque chose qui a rencontré l'adhésion. Nous avons un four à pain, par exemple, qui a été, qui sera financé également parce qu'un habitant a proposé ce projet. Donc nous allons pouvoir installer ce four à pain. Et puis, un enfant de 9 ans qui nous a fait la proposition d'une cabane dans un parc. Eh bien, nous avons retenu ce projet, une cabane en osier que nous allons installer parce que, c'était proposé par un enfant qui est venu défendre ce projet devant une salle et je dois dire que c'est plutôt un signe d'engagement des habitants, quel que soit leur âge. Donc on continue d'associer les habitants. Nous avons installé notre conseil des sages la semaine dernière avec 24 sages, donc 12 hommes, 12 femmes, issus de tous les quartiers de la ville, avec des professions très diverses, et non, essentiellement des retraités, mais très investis dans la vie de la ville et qui ont à cœur de présenter des projets. Et puis,
donc là, c'est consultatif.
C'est consultatif. Ils ont un rôle, par exemple, ils vont avoir un rôle pour étudier le budget participatif, les propositions. Ils peuvent nous soumettre des projets. Là, je sais que nous les mettons au travail pour les travaux autour de l'abbaye. Donc, nous avons des panneaux pédagogiques à réécrire. Donc, nous leur demandons de travailler. Nous les avons associés dans le cadre de la charte de l'urbanisme dans le premier mandat. Parce qu'à Montivier, c'est peut-être, je crois, une exception, je crois, dans l'agglo havraise, tout projet d'urbanisme, c'est-à-dire que dès lors que 5 logements sont construits, nous sollicitons une concertation préalable, c'est-à-dire que nous demandons au promoteur de venir se présenter à la population, de présenter le projet.
Et il y a 3 semaines... Ça peut modifier le budget, modifier le projet.
Tout à fait. C'est-à-dire que le projet va être évolutif puisqu'à la fin, il y a un compte-rendu et nous avons pu faire évoluer des projets. Je prends un exemple malheureux. Nous avons eu un incendie en 2018 du centre commercial de la Belle Étoile. Mmh. Terrible, terrible incendie. Eh bien, mon prédécesseur avait prévu un projet de 90 logements en lieu et place. Eh bien, nous avons retravaillé ce projet. Aujourd'hui, j'ai signé un permis de construire de 55 logements qui n'a été l'objet d'aucune contestation parce qu'il a été le fruit d'une réflexion avec les habitants, avec les riverains, avec le promoteur. Évidemment, passer de 90 logements à 55, vous doutez bien que la marge est un peu moindre pour lui, bien évidemment, mais il va continuer. Et en tous les cas, l'idée, c'est de préserver la qualité de vie de celles et ceux qui habitent là, et puis de celles et ceux qui vont venir vivre. Donc tous nos projets, au départ, on l'a mis à 10, pour tout vous dire, on a mis à 10 logements, et il se trouve qu'un promoteur s'était dit, je vais construire sur une parcelle 9 logements, donc le maire que je suis, avec mon conseil municipal, nous avons fait le choix d'abaisser à 5, ce qui est le fruit vraiment d'une réflexion. On n'est jamais d'accord à 100% sur un projet d'urbanisme. L'idée, c'est de dégager un consensus, et de dire qu'il faut accepter, il y a ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, et il m'est arrivé l'année dernière d'être opposé à un projet, donc je continue d'être opposé à ce projet parce qu'il ne semble pas répondre aux conditions de vie, de stationnement, de façon de vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut beaucoup de végétation. Je trouve que c'est important de préserver le cadre de vie dans ma commune. Donc, on est sur la question de l'urbanisme. Vraiment, on a une implication forte des habitants.
On a aussi donc conseil municipal enfant, donc de nombreuses réunions. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que en fait, tout ça, c'est du gadget?
Alors absolument pas, je pense pas que les habitants puissent dire ça, parce que notamment quand je vois le conseil municipal des enfants, le conseil municipal des enfants se réunit régulièrement, travaille, et puis les enfants, je pense qu'il faut poser la question aux parents. Les parents sont heureux de voir leurs enfants grandir peut-être un peu plus que les autres, parce qu'ils sont en contact d'adultes. On leur a proposé par exemple du concret, c'est-à-dire d'inaugurer des espaces sans tabac aux abords des écoles, c'est très concret, ce sont les enfants qui y ont travaillé. Nos enfants du conseil municipal, les enfants ont travaillé autour de vidéos sur la prévention routière, sur la sécurité routière, sans doute un message qui a été très fort. Ils travaillent sur les actions éco-citoyennes, ils sont très généreux en matière de solidarité. Et en fait, c'est un message que ils peuvent faire passer auprès de leur père, mais aussi de leurs parents. Et je dois dire que les enfants, lorsqu'ils se présentent une fois dans leur mandat devant le conseil municipal des adultes pour présenter une délibération, je peux vous assurer qu'ils en gardent trace. peut-être que l'un des aspects les plus plaisants de ma fonction, c'est que sur la mouture 2021-2023, les premiers conseillers municipaux des enfants ont grandi. Je les ai retrouvés au conseil d'administration du collège Raymond Queneau. Ils sont délégués de classe, ils sont délégués au conseil d'administration.
Ils s'investissent.
C'est un engagement citoyen qu'ils ont commencé très tôt et qu'ils poursuivent. Et ils s'impliquent dans des associations. Donc, on est loin du gadget parce qu'on leur donne des moyens. Je parlais du budget participatif, nous donnons des moyens. Et la parole, elle est importante, mais il faut que les habitants se sentent utiles. Et là, ils ont vraiment le sentiment de se rendre utiles.
Mais à vouloir l'avis de tout le monde, est-ce qu'on arrive à trancher, à prendre des décisions? Est-ce que ça retarde pas les projets?
Ah non, au contraire, si nous parlons d'urbanisme, je crois pouvoir dire que d'ailleurs, aujourd'hui, dans nos grandes villes, la plupart des villes, les projets sont attaqués. Ils sont attaqués au niveau judiciaire parce que il y a des contestations possibles lorsque vous déposez un permis de construire. Aujourd'hui, tous les projets
pour vous, c'est pas le cas.
Il n'y a eu aucune attaque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de recours. C'est-à-dire que ça prouve bien que si on prépare les choses en amont, ça évite des recours. Et les promoteurs se rendent compte que finalement, c'est leur intérêt parce que lorsque vous allez évidemment au tribunal, ça retarde. Et aujourd'hui, c'est une façon de travailler. Et puis, je le disais, on n'est jamais d'accord à 100%. L'idée, c'est de pouvoir faire émerger des idées qui soient utiles à l'intérêt général.
Alors, ce qui a marqué aussi votre première mandature, c'est votre implication dans l'écologie, dans le développement durable. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Ça se sent un peu partout, dans tous vos projets. Il y a eu la Sente des rivières.
Tout à fait. Aujourd'hui, il faut être reconnecté avec la nature. C'est pas le maire qui le dit. La plupart des scientifiques disent qu'aujourd'hui, pour aller mieux, il faut être connecté un peu plus avec la nature. On va beaucoup mieux. Je pense notamment aux enfants. Nous avons l'école du dehors que nous avons au parc de Buglis, qui est le premier acte politique qui fut le mien en 2020. C'est de préempter une parcelle de 5000 mètres carrés avec une centaine d'arbres pour empêcher que tout ça en plein cœur de ville, soit rasé au profit d'habitations. Mais aujourd'hui, c'est un vrai poumon vert qui subsiste en centre-ville. Et j'ai toujours dit, tant que je serai maire, je préserverai tous ces arbres. Et aujourd'hui, nous avons l'école du dehors qui s'y déroule. Nous avons régulièrement des activités autour de la nature qui s'y déroulent. Ouais. Nous avons inauguré deux aires terrestres éducatives avec l'école Jules Ferry et l'école Louise Michel, notamment l'une au parc jardin de la Sente des Rivières. Vous le disiez, monsieur Antoine, le parc jardin de la Sente des Rivières, c'est 3 hectares rendus à la nature, à la biodiversité. C'est un site que les Montivillons, mais aussi largement autour de Montivier, qui était très connu, c'est la balade le long de la rivière La Lézarde. Eh bien, aujourd'hui, c'est un site avec 600 mètres de ponton, 1200 arbres
replantés. Très apprécié.
Très apprécié. Nous avons des visites d'élus, de techniciens d'autres départements. En fait, nous avons voulu montrer qu'il était possible de concilier l'écologie et la présence humaine. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir concilier les deux. Et aujourd'hui, c'est un parc qui a des vertus. Il y a énormément d'habitants qui adorent le traverser le matin très tôt parce qu'ils vont se ressourcer. C'est un moment agréable pour les enfants parce que vous êtes en connexion avec la nature. Vous allez vous poser, vous entendez le chant des oiseaux. C'est quand même plutôt agréable. Nous avons une opération qui nous tient à cœur aussi à Montivier, c'est un arbre de naissance. Nous offrons un arbre pour chaque enfant né à Montivier. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle cette forêt des naissances qui commence à prendre forme. C'est important parce que symboliquement, vous enracinez dans la ville. Et puis, nous avons des actions en direction, par exemple, des hérissons en ce moment. Une opération qui marche bien, qui est plutôt séduisante.
On en a parlé, oui.
Voilà, vous avez parlé sur les ondes de Tendance Ouest.
Quelques mots sur ce gros projet du nouveau quartier, d'un quartier éco.
Alors, le nouveau quartier se situe en proximité du quartier de la Belle Étoile. C'est un projet qui a une quinzaine d'années et qui a engagé pour la ville de nombreuses dépenses. Déjà, il y a 6 millions d'euros qui ont été engagés. Donc, évidemment, le maire que je suis, c'est évidemment comment on retrouve un équilibre. Eh bien, nous avons retravaillé pendant 6 ans tout ce projet. Je rappelle qu'au départ, c'était 1000 logements. C'était 1000. Mon prédécesseur était parti sur une concession à 525. Nous avons dénoncé cette concession parce que justement, il n'y avait pas eu appel à la population pour y réfléchir. Et nous avons convenu de le formater à 428 logements. Aujourd'hui, c'est l'équilibre.
On peut faire un écoquartier avec 428 logements?
Oui.
Ça paraît beaucoup quand même.
Alors, il ne s'appelle pas écoquartier parce que la nomenclature n'existe plus. C'est un nouveau quartier et nous avons un label qui s'appelle le label qualité de vie et habitat qui répond à des critères importants de bien vivre. Donc tout ça est condensé sur 15 hectares avec tout typologie. Évidemment, il y aura l'accession à la propriété, il y aura des petites parcelles, moyennes parcelles, un peu plus grandes parcelles, des bailleurs. Donc le promoteur aujourd'hui, c'est Edifides. Il a en charge pendant 12 ans un cahier des charges pour pouvoir évidemment travailler lot par lot avec toute une typologie de logements sociaux, toute une typologie de petites maisons, de petits immeubles. Tout ça a été travaillé avec un cahier des charges précieux et c'est un des plus gros projets évidemment de l'agglomération havraise, peut-être même du département.
Oui, qui va vraiment pouvoir voir le jour maintenant.
Ça y est, les concessions d'aménagement est signée et nous espérons voir les premières pierres, enfin premières sorties en 2029. C'est l'objectif parce que sur le territoire de l'agglomération havraise, nous manquons singulièrement de logements, en tout cas de logements dans de bon état.
Quand on parle écologie, on parle aussi mobilité. Le tram va bientôt arriver à Montivilliers. On avait le train avant. C'est une bonne nouvelle. Comment on fait pour faciliter les déplacements des Montivillons jusqu'au Havre où ils peuvent travailler?
Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet important parce que Montivilliers, pour faire vite, vous avez à peu près 7000 emplois et 7000 actifs. Donc en fait, évidemment, on n'est pas sur une île déserte. Donc évidemment, il y a énormément de déplacements, nombreux habitants de Montivilliers, mais des communes autour qui vont évidemment travailler sur le Havre. Et inversement, nous avons énormément de flux. Aujourd'hui, les mobilités, c'est un sujet important. La ligne C, donc après les deux lignes du Havre qui ont été inaugurées en 2012, du tramway, eh bien la ligne C, elle va arriver à Montivilliers. Nous avons retravaillé dès l'élection de 2020 avec le président de la communauté urbaine, avec Édouard Philippe. Nous avons retravaillé, parce qu'on n'était pas d'accord sur le premier projet qui avait été initié. Et aujourd'hui, nous avons 4 stations à Montivilliers. Et donc l'objet, c'était clairement de passer. Nous étions sur un projet qui était prévu au départ à 40 minutes. Nous avons réussi à obtenir un trajet à 24 minutes entre Montivilliers et Le Havre, avec 4 stations, l'une importante à l'hôpital Jacques Monod, qui va pouvoir desservir l'hôpital public, un très bel hôpital, avec une station qui sera cette fois-ci au niveau du parking. Ce n'était pas le cas avec le TER, vous étiez en fond de vallée, et c'était franchement c'était inaccessible, pour notamment si vous étiez en fauteuil avec des béquilles. C'est quand même assez courant quand vous allez à l'hôpital. Donc aujourd'hui, l'hôpital public va avoir un vrai moyen de transport à la station Monod. Nous aurons la station au niveau du cinéma Lézard, la station Cité des Abbesses, donc c'est la gare de Montivilliers, le centre-ville, et puis le terminus au Parc Jardin. L'idée, c'est d'avoir 4 stations pour évidemment être sur le territoire de la ville et éviter d'engorger le centre-ville. Donc c'est un vrai projet très structurant pour la communauté urbaine, puisque Montivilliers va être rejoint au Havre, et à partir du Havre, vous avez une ligne qui dessert les quartiers sud. Donc évidemment, le Havre va ainsi être connecté, mais aussi Montivilliers, Harfleur, et par-delà Harfleur, vous pouvez aller sur la zone industrielle. Donc il y a tout un travail qu'il faut continuer de mailler sur les mobilités, c'est précieux. Donc je dois dire, mobilité, je ne peux que parler des pistes cyclables. Il y a un gros boulot, ça a commencé. On est quand même mieux, mais il y a encore un gros travail à faire parce que aujourd'hui il y a de plus en plus de cyclistes, donc il y a un travail. Je pense que l'explosion du prix du carburant n'y est pas pour rien. La volonté aussi d'avoir sans doute cette activité sportive, de pouvoir aussi se détendre. Le vélo, c'est un vrai enjeu. Évidemment, ça prend du temps parce que ce sont des infrastructures qui coûtent cher. C'est porté par la communauté urbaine, le FC Métropole. Tout ce qui est voirie, c'est de sa compétence. Ça prend du temps, c'est long, c'est cher. Mais
ça verra le jour.
Mais il faut avancer.
Eh bien, merci beaucoup. Et vous évoquiez l'hôpital Monod il y a un instant. On va y revenir. On va d'abord marquer une petite pause de publicité. Et puis, on reviendra sur cet hôpital Monod et sur la santé. À tout à l'heure.
Leur parcours, leur projet, leur ville, les maires se livrent sur Tendance Ouest.
Et un peu plus de 2 mois après les élections municipales de mars, focus aujourd'hui avec la vie d'un maire, Jérôme Dubos, le maire de Montivilliers. Il s'agit là donc de votre deuxième mandat, on l'a dit. Montivilliers qui est connu pour son hôpital, l'hôpital Jacques Monod. Vous êtes d'ailleurs vous vice-président du Havre Seine Métropole en charge de la santé. L'accès aux soins, ça reste un problème sur la communauté urbaine?
Alors c'est un sujet, je pense pouvoir dire, au-delà de la communauté urbaine, je pense que c'est peut-être le sujet principal chez les Français, c'est comment on peut accéder aux soins, et notamment un médecin généraliste. Sur le territoire de la communauté urbaine, il y a 275 000 habitants pour 54 communes, il y a aujourd'hui 25 000 habitants qui sont sans médecin traitant. Il se trouve que parmi ces 25 000, je suis de ceux-là. Mon médecin est parti à la retraite il y a 2 ans, donc je suis toujours sans médecin. Donc comment nous déployons avec la communauté urbaine et son service santé, sous l'impulsion évidemment du président, c'est tout simplement de rendre notre territoire attractif. Se dire, aujourd'hui, au Havre, à Montivilliers, évidemment, dans la communauté urbaine, c'est comment on capte des médecins. Eh bien, on mise sur les internes. Les internes en médecine, ce sont des jeunes hein, qui sont étudiants, qui sont en 7e, 8e, 9e année, eh bien, qui vont pouvoir faire leurs études ici.
Travailler à Mono, c'est ça
oui. Ils peuvent être 6 mois à Mono chez des généralistes. Eh bien, c'est de se dire, ils peuvent venir du sud de la France, des Outre-mer éventuellement. C'est comment se dire qu'ils vont s'installer ici. Eh bien, il y a la question du logement qui compte, parce que quand vous venez de très loin, eh bien, vous pouvez être logé. Nous avons notamment Montier très heureux d'avoir un projet de réhabilitation d'un hôtel, donc de 31 chambres, 16 seront consacrés à l'accueil d'internes, ça commencera au 1er novembre de cette année, 16 logements pour des internes en médecine.
Ça, on sait si c'est vraiment efficace ?
Eh bien, le logement est une des conditions pour que des étudiants se sentent bien. Vous savez, quand ils ont un internat, nos futurs médecins, c'est un gros, gros travail. Il y a une charge de travail énorme. Dans les conditions pratiques, si on peut les soulager de la question de l'hébergement, c'est une bonne chose. Donc, c'est vraiment la question du logement, elle compte. Nous avons lancé, avec la communauté urbaine, nous finançons 3 postes de professeurs d'université ici au Havre, notamment en oncologie, en pneumologie et puis en pédopsychiatrie. Ben, c'est important parce que ça permet évidemment d'avancer sur des études des études médicales, avoir ces PUPH, c'est précieux d'avoir cela à Montivier et à l'hôpital Jacques Monod qui est situé évidemment à Montivier mais qui rayonne par-delà notre commune. C'est important de continuer d'être attractif sur notre territoire.
Monod est attractif.
Monod est un hôpital très attractif. Très attractif. Il y a 4500 salariés sur le GHH, le groupe hospitalier du Havre, avec vraiment des équipes médicales très mobilisées, avec de la technologie vraiment très high-tech. Et puis, nous avons eu 80 médecins qui sont arrivés sur les 2 dernières années dans des disciplines extrêmement variées.
Donc ça avance.
Nous avons eu pour la première fois l'année dernière l'installation de 35 professionnels sur l'agglo havraise. Alors, profession médicale, alors médecin, kiné, pharmacien, c'est important. C'est 35, c'est la première fois que vous avez ce seul positif. On a bien conscience, je pense que tous les élus de France sont conscients des difficultés. Mais en tout cas, nous retroussons nos manches, nous avançons. À Montivier, nous avons eu la chance et le plaisir d'accueillir des médecins à la Belle Étoile. Elles étaient 4, elles sont 5 aujourd'hui. Nous sommes au travail dans un pôle de santé en centre-ville, non loin évidemment de la station de tramway dont nous parlions il y a quelques instants, en plein cœur de ville. Donc c'est important de pouvoir avancer. Et puis le zonage fait que nous allons pouvoir avoir des aides. Nous avons fait le choix à Montivier de lancer des bourses pour l'installation de jeunes médecins. Il y a tout un travail autour de l'arrivée des docteurs juniors. Il y a 15 docteurs juniors. Je rappelle, c'est la 10e année de médecine qui est imposée dans le cursus des médecins. Eh bien, nous en avons 15 qui arriveront sur l'agglomération havraise. Il faut que nous puissions les accueillir dans les meilleures conditions pour les fixer et puis qu'ils s'installent, évidemment, durablement.
Autre préoccupation importante dans les villes et notamment dans les centres-villes, c'est le commerce. Alors, il y a une grosse zone commerciale à Montivier, la Lézarde, mais il y a aussi un centre-ville où le commerce doit vivre. C'est difficile que le commerce reste implanté en centre-ville.
Je crois que c'est un enjeu, on l'a vu dans les élections
municipales. Et c'est pas que pour Montivier, forcément.
Toutes les villes, j'ai suivi tous les débats, je pense que dans toutes les villes, il y a ce débat. Évidemment, la société a évolué, vous avez aujourd'hui de nombreuses livraisons par Internet, je ne vais pas parler des grandes plateformes, mais vous avez beaucoup, vous commandez à minuit, vous êtes livré quasiment le lendemain. Nous avons sur le territoire de Montivier un centre commercial qui a plus de 40 ans, donc qui existe, et évidemment, il y a des connexions à faire. Pour autant, nous avons la chance d'avoir un centre-ville qui demeure
dynamique.
Attractif, dynamique. Nous avions ce week-end une animation autour de la fête du goût portée par une enseigne, l'Union commerciale, les enseignes de Monty. Donc il y a quelques cellules vides, mais vraiment, c'est plutôt très attractif.
Et qu'est-ce qu'une municipalité peut faire pour que le commerce reste ou s'installe?
Ce qu'elle peut faire, c'est le travail en synergie, c'est travailler avec les commerçants eux-mêmes, c'est pouvoir inciter à venir. Alors le travail, il n'est pas simple parce qu'il n'échappera à personne qu'il y a une crise du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, je pense que chacun regarde dans son porte-monnaie, c'est quand même assez difficile. Donc c'est difficile aussi pour les porteurs de projets. Nous avons par exemple un commerçant qui souhaite s'installer. Pour l'instant, c'est un blocage des banques parce que évidemment, il y a des fragilités liées au contexte national, international. Donc il y a des fragilités et là... le maire ne fait que subir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Nous, ce que nous avons, c'est vraiment cette dynamique de parler en positif. Je crois qu'il y a
de la même manière. Et peut-être créer aussi des événements, comme vous l'avez fait avec Monty Marché, par exemple.
Oui, les Monty Marché, en 2020, première initiative, il y avait une quinzaine d'exposants le vendredi soir. Eh bien, nous en avions 45. La première, c'était ce vendredi. Et le prochain, sera le 19 juin.
Le marché nocturne.
Un marché nocturne de 17h à 22h.
Ça fait
bien, ce sont des milliers de visiteurs qui viennent. Je me souviens qu'en 2020, le vendredi soir, il n'y avait pas un chat dans les rues. Aujourd'hui, bien, ce sont des milliers de visiteurs qui passent. Et ce qui est important, c'est que nous avons les Halettes, par exemple, à Montivier, ce sont des artisans. Eh bien, vous y venez. Nous avons la chance d'avoir, et ça constitue l'attractivité de la ville, une belle abbaye. L'abbaye de Montivier, ce qui a donné le nom de Cité des Abbesses à Montivier, parce que pendant des siècles, c'est Montivier qui est réunionné dans le Pays de Caux avec Harfleur. Harfleur-Montivier, bien avant Le Havre, puisque je suis au Havre dans vos studios de Tendance Ouest. Le Havre n'a été fondé qu'en 1517 par François Ier, mais l'abbaye de Montivier a été fondée au 7e siècle par Saint Philibert. Les Vikings sont passés par là, reconstruction 11e. Donc pendant des siècles, c'est Montivier qui rayonnait. Eh bien, cette abbaye, elle est constituée de pierre, et ça, c'est important. C'est un élément d'attractivité. Nous avons déjà commencé de travailler en réouvrant l'intégralité de l'abbaye, et là, nous sommes dans une phase 2.
Il y a eu d'importants travaux déjà réalisés.
D'importants travaux suite à des problèmes techniques. Eh bien, tout est réouvert. Nous avons évidemment des éléments du XIIIe siècle et du XVIe siècle. C'est libre, c'est gratuit. Vous pouvez venir le samedi après-midi, dimanche après-midi. Je dis pour vos éditeurs de Tendance Ouest de ne pas hésiter à venir à l'abbaye de Montivier. Nous y avons des expositions dans un réfectoire gothique du XIIIe siècle. Vraiment, c'est un élément constitutif de l'attractivité de notre ville. Donc, nous y travaillons. Et puis, je crois beaucoup, c'est à la qualité, l'accueil. Nous commerçons, nous avons la chance d'avoir des commerçants de qualité qui ont un accueil en direction du public. Donc, les Montivillons viennent, mais aussi les communes autour viennent, que ce soit chez la fromagère, la charcutière, le boucher. Donc c'est important, nous avons réussi à avoir des métiers de bouche, c'est en tension, c'est pas simple. Donc le travail doit se poursuivre, et c'est main dans la main avec les commerçants.
Sur l'abbaye, il y a de prochains travaux de prévus ?
Oui, nous avons percé pour relier la bibliothèque qui était l'ologie de l'abbesse, l'abbaye avec la bibliothèque, et puis continuer de pouvoir circuler dans tous ces bâtiments, de très beaux bâtiments abbatiaux, donc avec l'idée de pouvoir se restaurer, de pouvoir prendre un verre dans l'abbaye. Donc on est au travail là-dessus, et nous ferons appel à avec ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt, de manière à ce qu'il y ait aussi du privé qui puisse nous accompagner avec nos bâtiments.
Oui, parce que un tel patrimoine, bien sûr, ça représente la ville, mais ça a forcément un coût, j'imagine.
C'est la difficulté pour les collectivités, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à quelque chose de crucial, c'est l'absence d'argent. Nous avons des recettes qui baissent parce que des dotations de l'État qui n'arrivent plus. Donc, alors que une mairie, une municipalité, c'est un vrai service rendu à la population. Donc, il faut vraiment que nous soyons toujours dans cet équilibre. Évidemment, contrairement à l'État qui s'endette, la ville doit être à l'équilibre. Et nos comptes sont évidemment bien gérés, donc nous devons toujours être à l'équilibre, toujours en recherche de financement.
Une mairie seule ne peut pas entretenir ou réparer un tel monument ?
Non, puis de manière générale, au-delà de l'abbaye, moi je conçois mon mandat de maire en étant dans le partenariat. C'est aussi ma fonction d'aller vers les autres, donc évidemment les autres, le département de la Seine-Maritime, la région Normandie, les services de l'État, mais aussi les partenaires privés. Vraiment, je conçois ma fonction de maire, parce que ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Je pense que des fois je fais 10 métiers par jour, c'est une fonction et qui m'oblige à aller vraiment vers les autres et d'être le plus ouvert possible pour accueillir des projets, créer des synergies, créer des initiatives, encourager des initiatives parfois citoyennes, associatives ou d'entrepreneurs, parce que moi je crois beaucoup au travail avec les chefs d'entreprise qui se retroussent les manches. On a la chance d'avoir des zones d'activité assez importantes à Montivier, elles sont conséquentes, elles sont pourvoyeuses d'emplois, et donc on a des chefs d'entreprise avec lesquels nous avons plaisir à travailler. Évidemment, être peut-être aidé par le biais de subventions ou de donations, c'est mon travail aussi d'aller chercher ces subsides.
Mélange public-privé, c'est quelque chose qui ne vous dérange pas ?
Absolument pas. Aujourd'hui, dès lors que l'argent est rare, il faut aller le chercher, évidemment, pas n'importe quel prix. Mais je pense au contraire, justement, qu'il y a des synergies à trouver entre le public et le privé. Vous savez, moi, je suis de gauche, je suis profondément attaché au service public, profondément attaché au public en général, mais je sais aussi qu'il y a des initiatives dans le privé. Je crois qu'il ne faut pas, aujourd'hui, c'est opposer les uns aux autres. En tout cas, le rôle d'un maire, c'est d'essayer d'être le plus fédérateur, de rassembler toutes celles et tous ceux qui ont envie de l'avant, parce que je crois beaucoup aux énergies positives, et il y en a sur un territoire. Dans ma commune, vous aurez compris, Montivier est une ville dynamique, mais je crois qu'on a la chance de vivre sur un territoire au sein de la communauté urbaine, le Hassan Métropole, un territoire qui est dynamique, qui a beaucoup de ressorts, beaucoup de ressources, et je crois qu'il y a des potentialités, il faut y aller, il faut libérer les énergies.
Alors parmi les différentes animations dont on a parlé, vous avez créé les Montimarchés, il y a eu la fête du goût le week-end dernier, vous avez parlé de la nuit du handicap, ça ce sera samedi prochain. Je crois que vous avez quelques projets encore sur les animations, j'ai cru voir un marché de printemps, un salon des métiers d'art.
Oui. On a la chance d'avoir le village des artisans, essentiellement des artisanes d'ailleurs, du côté des Halettes. On a fait le choix de travailler sur un événement important, notamment au sein de l'abbaye. Donc ça, nous allons travailler dans le trail. Nous avons une fête de l'automne, une fête foire aux arbres qui marche bien. Et eh bien, on a décidé de la décliner aussi en fête du printemps. Nous avons prévu de lancer une guinguette. Donc ça, c'est, ça plaît beaucoup, ces repas participatifs. Nous avons notre initiative au niveau culturel, ce qu'on appelle les Monty-spectacles en bas de chez moi. C'est-à-dire que la volonté, c'est d'apporter la culture partout. C'est-à-dire pas uniquement dans des salles, mais dans les quartiers, au plus près des habitants.
Tous ces événements, c'est pas forcément anecdotique. C'est ce qui amène du monde dans la ville, du dynamisme.
C'est ce qui amène du lien social. C'est ce qui permet, voilà, c'est de manière très intergénérationnelle. C'est partout. Moi, je suis très adepte de la culture pour tous et partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des lieux sacralisés. C'est de permettre aussi de soutenir le monde du spectacle, ce monde du spectacle vivant, le monde de la culture, dont on sait qu'il traverse une crise. C'est d'accompagner, puis ce sont des moments fédérateurs. Les Monty Marchés, c'est le plaisir de se retrouver, d'aller discuter, de prendre une bière, de prendre une boisson non alcoolisée éventuellement. C'est les Monty Spectacles, c'est se dire j'ai un spectacle en bas de mon immeuble, et j'y vais. La culture vient à moi. Et ça, c'est important, c'est fédérateur. C'est ce qui nous permet de créer vraiment ce lien, parce qu'il y a toujours un plaisir à se rencontrer. Nous sommes avant tout nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin des uns des autres. Dans une société hyper connectée où on est tous avec nos téléphones, je suis le premier, peut-être trop connectés, on est tous, de se retrouver les uns avec les autres, avoir des discussions, des échanges, c'est ce qui nourrit, je crois, le fil des discussions. Et puis c'est ce qui fait qu'on a plaisir vivre sa ville. Je pense que je suis le maire d'une ville, je suis fier de ma ville. Je pense que mes collègues maires, nous sommes 54, on est tous fiers de notre ville et tous très heureux, évidemment, de pouvoir nous engager au service de nos concitoyens. Donc moi, j'ai des Montivionnes et des Montivions auxquels je suis très attaché. Et donc, je suis très heureux de pouvoir, évidemment, m'investir en leur direction.
Eh bien, Jérôme Dubaume, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et bon deuxième mandat à Montivier.
Merci, monsieur Antoine.
Excellente journée à vous tous. Tout de suite, on va enchaîner avec les informations.